Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC.
RMC, en route pour Paris 2024.
Notre magazine consacré donc à la préparation de ces Jeux Olympiques. On vous dit tout, toutes les semaines, tous les samedis, tous les dimanches après-midi, sur la préparation de nos athlètes, sur la préparation des lieux également. On découvre aussi les membres de la team RMC. On est à 159 jours, je crois, de la cérémonie d'ouverture des Jeux. 192 des Jeux Paralympiques. Autant dire que ça se rapproche à grands pas. Et aujourd'hui, eh bien, on va s'entretenir avec l'une de nos championnes du team RMC qui a bien mérité une nouvelle fois son titre de championne puisqu'elle a décroché hier à Miramas un énième titre de championne de France du saut à la perche. Et en plus, elle est niçoise. Margot Chevrier est notre invitée. Bonjour Margot.
Bonjour.
Et bravo pour ce nouveau titre. Ça commence à en faire quelques-uns, dis donc. Hein.
Oui, ça fait le sixième en senior et le neuvième en tout, je crois.
Le neuvième titre de championne de France. Ça, quand même, quand tu raconteras ça à tes petits-enfants dans de nombreuses années, hein, d'autant qu'on est, on est en cours, hein, et le chiffre risque d'augmenter encore. Tu as même, je crois, hier établi ta meilleure performance de la saison, en tous les cas en salle, hein.
Oui, et c'est mon record en salle. Donc,
c'est ton
j'ai jamais sauté
salle.
Aussi haut en intérieur.
D'accord.
Et record des championnats, il me semble, de France. J'ai été 65 en 2022 et 66. Comme ça, je marque le coup.
Eh ben, c'est parfait tout ça. C'est parfait. J'ai vu la fin de ton concours. Alors, j'ai vu que tu avais tenté une barre un peu plus haute, histoire de battre ton record personnel. Malheureusement, autant t'as dominé ton concours de la tête et des épaules, autant la barre au-dessus, on sent qu'elle te bloque encore un peu.
Ouais, bah alors c'est pas tant la barre en elle-même qui me bloque, c'est plus que bah pour atteindre ces hauteurs-là, il faut changer de matériel.
Ah ouais.
Et que bah ça fait 2-3 concours d'affilée que pour passer 63, 65, 66, je peux me satisfaire de la perche qu'il faut. Et puis pour la barre du dessus, donc 73 ou 75 en fonction des concours, bah il me faut une perche plus dure et que pour l'instant je gère pas forcément tout à fait bien parce que bah les réglages faut qu'ils soient parfaits et que c'est bah des perches qui de plus en plus ne pardonnent pas.
Ah oui.
Donc là, les réglages n'étaient pas parfaits. Forcément, ça se paye cash et ça se voit tout de suite.
Et donc, tu t'entraînes au quotidien avec ces deux genres de perches. D'abord, pour assurer le résultat, pour monter à des hauteurs qui te permettent, en tous les cas en France, de dominer. Et ensuite, tu t'entraînes avec des perches qui te permettront peut-être de briller au championnat d'Europe et plus évidemment aux Jeux Olympiques cet été.
Alors en gros, à l'entraînement, j'utilise pas forcément ces perches-là parce que c'est des perches de compétition et qu'elles ont en fait des indices de dureté qui sont différents.
Uh-huh.
Et qui font que ben plus on est en forme, plus on prend des perches qui sont dures, plus on a de l'élan aussi en fonction du nombre de foulées qu'on a avant d'être au tapis. On a des perches qui sont plus grandes et qui vont être plus dures. Et donc en fait bah en début de saison avec deux ou trois perches plus souples, j'ai réussi à passer 63. Maintenant avec la forme qui monte, bah il faut que j'ai des perches de plus en plus dures et forcément bah en début de concours, j'ai une perche un petit peu plus facile, on va dire qui pardonne plus de choses parce que j'ai une marge de manœuvre. Puis ensuite quand elle devient trop souple, elle aurait pu être trop souple à la barre d'avant en fait. Donc c'est pas tant une perche qui va me faciliter que je prends pour le début de concours pour être facile et puis que pour aller plus haut, il faut que je change, c'est vraiment en fonction du jour J et du saut en lui-même. Le jour où les réglages sont parfaits, je suis très en forme et il n'y a aucun accro, bah, la perche avec laquelle je me suis arrêtée hier, ce serait peut-être celle avec laquelle j'aurais commencé.
Ouais.
Mais du coup, ça aurait été deux perches de plus qui m'auraient posé problème. Donc en fait, ça décale juste un peu la problématique.
Ouais.
C'est pas tant le chiffre en lui-même, c'est bah, le couac de ce jour-là sur cette transition-là.
Ouais. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, dans un concours de saut à la perche, plus le concours passe, donc plus la fatigue se fait sentir et plus on est à des hauteurs impressionnantes. Donc c'est difficile de battre des records parce qu'on là, à la fin du concours, tu commences à être un peu cuite, t'as des perches plus dures. T'as déjà laissé beaucoup d'énergie sur le terrain et c'est là que tu t'essayes d'aller de plus en plus haut, d'aller battre des records. Donc il faudrait peut-être commencer directement à 4,71, c'est pas mal ça.
Ouais, j'ai déjà envisagé cette possibilité. Je pense qu'un jour je le ferai juste pour me dire que je l'ai fait. Mais alors la problématique c'est que d'une part il faut quand même qu'on se règle parce que ben, être exactement parfait pour battre son record, c'est pas forcément faisable du premier coup. En tout cas, les probabilités sont assez faibles. Donc, il nous faut des barres avant pour se régler, pour se remettre dans le concours, pour se réchauffer. Et puis, pour voir finalement, entre l'échauffement et le jour J, bah, qu'est-ce qu'on doit utiliser pour être bon à telle barre. Après, là où c'est délicat, c'est que sur un championnat de France, ben, je commence mon concours presque 1h20 après le début du concours en lui-même. Et donc, ben, dans ces 1h20-là, je me suis échauffée il y a un moment. Il y a du nerveux quand même qui continue à tourner, parce que même si on est inactif vraiment sur le plan moteur, mais ça continue à tergiverser, on va dire. Et puis, ouais, il faut rester quand même chaud. Donc, on fait des gammes, on fait tout ça. Ça pompe de l'énergie. Et donc, bah, cette difficulté, c'est d'être bon 2 heures après avec cette énergie qui est un peu partie et que, bah, les barres montent et il faut être de plus en plus bon avec un peu de moins en moins d'énergie. Donc, c'est vrai que c'est un peu la difficulté quand on fait des meetings en France et que je suis pas forcément la première à commencer.
Il y a toute une gestion, hein, du concours, des choses qu'on a du mal à cerner quand on n'est pas perchiste et que tu nous expliques parfaitement. Alors, Margot, la forme est là, le titre de championne de France est là. On le sait, l'objectif de la saison, ce sont les Jeux Olympiques, puisqu'après la saison en salle, tu vas attaquer la saison en extérieur. Il y a des minima à faire, on le sait, pour ces Jeux Olympiques. Pour l'instant, tu n'y es pas encore. Est-ce que les minima sont obligatoires pour participer aux Jeux, ou tu pourrais y participer sans réussir? C'est quoi? C'est 4,75, c'est ça? 73?
C'est 73 les 73. Minima pour les Jeux. Alors après, ce n'est pas le seul moyen de se qualifier. C'est clairement, en gros, c'est entrer aux Jeux par la grande porte quand même. Donc c'est l'idéal, et c'est surtout que l'idée, c'est... Une fois qu'on est au jeu, de pas juste être là en spectateur ou en touriste, c'est d'être.
Oui, bien sûr.
Donc forcément, faire 73, c'est l'étape, et je pense que ce sera fait avant les Jeux. Après, la deuxième chose, c'est qu'on peut être pris au ranking. En fait, il y en a 32 qui seront sur le concours quoi qu'il arrive, et il y en a que une grosse quinzaine qui vont faire 73. Donc en fait, la deuxième moitié de la start list, ça va être les gens qui sont à la suite au ranking et qui sont dans les 32 meilleurs mondiaux. Là, pour l'instant, je suis 14e ou 13e au ranking mondial.
Donc ça va, donc t'es dans les clous là.
Je suis bien placé, ouais. C'est des performances qui restent à peu près un an, jusqu'à un an et demi dans les rankings. Et il faut faire quand même des gros points sur des grosses compétitions. Là, pour me passer devant au ranking, il va falloir qu'il y en ait quelques-unes, c'est pas 20 du coup, qui fassent mieux que ce que j'ai fait l'année passée. Et normalement, ça devrait pas arriver. Donc si tout va bien et que... Là, l'idée, c'est surtout d'arriver en forme et de pas se blesser, parce que la route est encore longue jusqu'au jeu. Mais voilà, pour moi, normalement, ça devrait le faire pour les jeux. Si c'est pas sur les minima, ce sera sur le ranking. Mais normalement, ce sera sur minima.
Donc, t'as pas trop la pression de ces minima, quand même. Alors que dans d'autres disciplines, on sait que le minima est obligatoire, et qu'il y en a certains qui commencent à s'inquiéter, évidemment. Est-ce qu'il y a un nombre limité d'athlètes par pays dans les concours, Margot?
Alors en fait, c'est 3 maximum par pays.
D'accord.
Dans chaque discipline et par sexe. Donc ce sera pour la perche 3 femmes et 3 hommes. Là où c'est plus stressant, c'est pour les hommes, parce qu'ils sont 5-6 à pouvoir faire les Jeux. Mmh. Et donc là, eux, ils vont devoir faire les minima, ils vont devoir être champions de France, et ce sera le podium des France cet été qui partira aux Jeux. Pour les filles, c'est un peu plus... Enfin, j'ai un peu moins de pression, parce que on sera pas 3 à faire les minima, et on sera peut-être pas 3 au jeu, en fonction de ce qu'arrivent à faire Ninon et MJ sur le ranking. Si elles arrivent à bien se placer, on pourrait être 3 au jeu, mais pour l'instant, c'est pas fait. Donc moi, j'ai moins ce stress de me dire, il faut absolument que je cours après tel perf, après tel machin du ranking, et que je m'épuise un peu dans ces compétitions-là. Maintenant, ce qui est intéressant d'en faire les minima assez tôt, c'est que du coup... On peut quand même planifier la saison en étant sûr et certain qu'on aura notre ticket pour les Jeux, et que voilà, on planifie des compétitions, on sait comment on se prépare, et on court quand même un peu moins sur cette performance qu'il faut réaliser un peu pour se rassurer, parce que finalement, là, moi, elle est surtout pour me rassurer, cette perf.
Alors Ninon, c'est Ninon Chapelle, et MJ, comme tu l'appelles,
MJ, c'est Marie-Julie Bonin,
qui s'entraîne avec toi à Bordeaux d'ailleurs, je crois. Hein.
C'est la
petite junior, enfin, elle n'est pas junior, mais elle est un peu plus jeune que toi, et tu l'as prise sous ton aile, ou elle t'a prise sous ton aile à Bordeaux.
C'est son groupe au départ.
C'est son groupe, voilà. T'as débarqué dans le groupe, t'as piqué la vedette, quoi, en gros. Alors, il y a plein d'objectifs. Il y a les Jeux Olympiques, évidemment, mais c'est encore assez loin, ce sera cet été. Avant, il va y avoir les championnats d'Europe, on va en parler. Et puis, il y a aussi cet événement organisé tous les ans par Renaud Lavillenie, qui se déroulera jeudi à Clermont, le All-Star perche. C'est une compétition qui est devenue incontournable depuis quelques années. C'est sympa et parce qu'il y a que des perchistes qui se retrouvent là dans ce concours. Hein,
ouais, ben en fait c'est, enfin alors au départ ça fait partie c'est une étape du Perche et les Tours. Donc c'est un circuit de meeting qui est organisé en France depuis pas mal d'années maintenant et qui a pour but de promouvoir la perche en France. Donc en fait du matin au soir on a des concours. Les concours de 9h, c'est les tout petits qui commencent à peine à faire de la perche et qui sont pris sur des compétitions. Et puis, plus on avance dans la journée, plus c'est des concours élites. Et le concours du soir, à 19h, 20h, c'est vraiment le concours international avec du coup, bah, des étrangers, du top niveau mondial et dans des conditions qui sont assez géniales pour nous parce qu'il y a un sautoir homme, un sautoir femme et on saute en fait en quinconce. C'est un coup un homme, un coup une femme et on a l'intégralité du public qui est là que pour les perchistes. Et comme on saute jamais en même temps qu'un autre perchiste, et ben on a toute la salle qui nous regarde seulement pour notre saut. On a notre musique qu'on choisit et qui est très souvent la même d'un perchiste tour sur l'autre. Et donc on est quand même dans des conditions qui sont assez, enfin même carrément propices à la performance. Et c'est vrai que c'est des meetings qu'on attend à chaque fois. On en a 4, 5, 6 dans la saison en fonction de ce qu'on met dans notre planning. Et j'avoue que Clermont, forcément, c'est un peu le berceau historique de la perche en France. Donc, quand c'est organisé par Renault, c'est quand même très bien organisé. Et là, c'est la semaine prochaine. Donc, c'est une autre étape avant les Monts d'Ensale qui seront début mars. Et j'avoue que le record de France en salle a été fait à Clermont sur le All-Star.
Voilà.
C'est forcément.
Petite idée derrière la tête.
Pourquoi pas c'est dans un coin de ma tête et je sais que c'est faisable.
Dis donc, battre le record devant Lavillenie et Duplantis, ça aurait de la gueule quand même. Hein.
Ça aurait de la gueule. Après, ils ont fait des records du monde. Moi, je viens pour le record de France. Bon, on n'est pas encore dans la même.
Oui, d'accord, mais bon.
On n'est pas dans la même catégorie encore, mais c'est le but.
Ouais. Un petit mot justement de Renaud Lavillenie, qui est un peu une sorte de figure tutélaire pour tout l'athlétisme français, pour toute la perche française. Tu as quoi comme rapport avec lui? Est-ce que c'est une sorte de grand frère? Est-ce que tu discutes avec lui? Comment il est perçu par les jeunes perchistes?
Garçon et fille, j'ai commencé la perche parce que je l'ai vu gagner à Londres en fait.
Ah ouais,
j'ai regardé les jeux à la télé en 2012 et j'ai pris ma licence juste après en septembre.
T'es pas venu à l'athlé en disant je vais faire de l'athlétisme, t'es venu directement sur la perche. C'est la perche qui t'intéressait.
Alors en fait, je suis venu à l'athlé parce que mon père en faisait et que ça faisait un moment que je voulais essayer. Mais avec pas forcément de discipline en tête. Je suis même pas sûre que quand j'ai commencé l'athlé, je sache exactement qu'il y avait tous les lancers, tout le sprint, tout le demi, tous ces trucs-là. Mais par contre, oui, quand on voit un mec faire quasiment 6 mètres sur une finale olympique et que ça a l'air d'être hyper marrant, enfin, quand on est gamin, c'est certes très impressionnant, mais ça a l'air d'être surtout super drôle. Et moi, ça m'a marqué et j'ai commencé par faire plein d'autres disciplines et je me suis dit à chaque fois, c'est quand qu'on essaye la perche? Et puis quand on a essayé, ça m'a jamais quitté. Donc je pense que déjà, moi, Renaud, je le vois un peu comme cette personne qui fait que ce jour-là, il a fait le truc qui a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, ok, je veux essayer ça. Et une fois que j'ai essayé, ça m'a jamais quitté. Donc il est quand même un petit peu responsable de pourquoi je suis là aujourd'hui.
Il le sait, tu lui as dit.
Mais après, oui, c'est toujours. Je lui ai peut-être pas dit en vrai. Mais je pense que comme c'est pas la première fois que je le dis, il l'a peut-être lu quelque part, je sais pas. Mais après, c'est surtout que, sur des stages ou sur des championnats, c'est forcément. Quel que soit le niveau, je pense que quand il y a des carrières qui ont été aussi longues, enfin qui sont aussi longues, et qu'il y a plein de. Enfin, la perche, c'est quand même très complexe. Donc, on est quand même souvent amené à avoir des problématiques qu'on va tous gérer un peu différemment parce qu'on a des gabarits différents, on a des styles de saut différents, et on a aussi des tronches différentes parce que c'est quand même un gros élément dans cette discipline. Et donc c'est toujours sympa de pouvoir discuter et de dire ok toi ce truc là tu le gères comment, ça comment t'as pu faire à un moment, est-ce que t'as déjà eu cette problématique, et j'ai déjà été amenée à lui poser la question ça t'as fait comment en fait, est-ce que ça t'est déjà arrivé, est-ce que c'est un truc qu'il faut prendre en compte pour l'entraînement, est-ce que tout ça. Et donc forcément c'est un conseil de quelqu'un qui saute déjà, qui a sauté haut et qui a une gestion je pense de ce qu'il fait qui est assez impressionnante parce qu'il est capable de rattraper des sauts qui partent très très mal comme des sauts qui partent très bien, de tricher sur des perches pour pouvoir passer quand même, d'optimiser des perches avec lesquelles ce serait pas passé et finalement ça passe. Donc je pense que c'est un peu un. Enfin, faut apprendre des gens comme ça en fait. Faut poser des questions.
Bien sûr, et il y a une vraie expertise dans l'histoire de la perche française parce qu'il y a toujours eu des grands champions et des championnes. Mais enfin, c'est plus récent parce que la perche féminine est arrivée plus tard dans les grands concours. Mais en tout cas, on sent qu'en France, il y a une vraie passion pour cet exercice et avec de grands champions comme ça, c'est vrai que la transmission se fait un peu mieux. Margot, un petit mot des championnats d'Europe qui auront lieu dans quelques semaines, dans deux semaines très exactement. Ce sera à Glasgow en Écosse. Là aussi, l'objectif, c'est encore de progresser un peu plus et aussi de se mesurer à la concurrence mondiale. Les Kennedy, Moon, Murtaugh qui sont devant toi, qui viseront les médailles. Est-ce que tu peux t'en rapprocher? Est-ce que l'objectif de médaille est vraiment là aussi au fond de ta tête?
Bah alors après les mondes en salle, la particularité c'est que c'est une finale directe, donc on sera que 12 et il va falloir être d'entrée de jeu hyper bon parce qu'il n'y a pas le moyen de se régler en qualif ou de faire un peu une pré-compète sur les qualifications et de se dire on voit le reste en finale. Là on arrive, c'est finale directe. Donc c'est un peu l'équivalent d'une finale d'un championnat du monde extérieur ou d'un Jeux olympiques. Après c'est s'en rapprocher de ces filles-là, forcément c'est le but, sinon j'y vais même pas. Mais après voilà, les battre ou pas, ça reste un concours le jour J. Je sais ce que j'ai encore sous le pied et ce qu'il faut mettre en place pour qu'il y ait plus haut qui reste.
Et elles sont quoi? Elles sont à combien au-dessus de toi pour l'instant sur leur meilleure perf? Je sais pas, sur la saison ou en général, c'est quoi? C'est 8-9 cm d'écart pour l'instant encore?
Sur la saison, en fonction des filles, oui, c'est à peu près 10 cm.
Ouais.
Après, sur les records, c'est différent parce que moi, j'ai fait 71 et elles ont fait, pour certaines, 95. Et ouais. Sinon, plutôt 80, 75, 90 ou 85. Mais c'est des filles surtout qui sont très stables, à un gros niveau de performance et qui peuvent faire 75 tous les jours. Moi, pour l'instant, je ne peux pas faire 75 tous les jours. Mais ça reste un championnat. Donc, c'est le jour J qu'il faut faire le bon truc. Donc, c'est bien parce que c'est toujours de l'expérience qu'on prend, et même si c'est pas l'objectif de l'année, parce que clairement cette année c'est les Jeux et je pense qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous détourner du droit chemin, mais ça reste une étape en plus de l'expérience qu'on prend, et se confronter à ces filles-là qu'on rencontre en meeting, en championnat c'est encore autre chose parce que la place elle compte, chaque essai compte. En meeting c'est intéressant, mais on sait qu'il n'y a pas le même enjeu non plus. Si tu fais deuxième c'est pas pareil, si tu fais quatrième c'est pas pareil. En championnat tu fais quatrième, t'es quand même bien déçu, je pense.
Forcément. Bon, eh ben, on voit que tu es pleine d'ambition, pleine de bonne humeur. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Tu nous donnes la passion de ton sport. Un tout petit mot perso, je m'adresse à la niçoise expatriée à Bordeaux. J'ai vu un reportage il y a quelques temps qui t'était consacré et tu étais complètement désespérée par la météo bordelaise. Est-ce que ça s'arrange, Margot? C'est sûr que c'est pas la météo de la Côte d'Azur, forcément. Hein.
Alors, on a fait, pour ma défense et pour la leur surtout, des Bordelais, on a fait la suite de ce reportage la semaine dernière et il faisait grand bleu.
J'ai pas vu la suite.
Hein. Donc j'ai essayé quand même de réparer mon reportage parce que j'ai eu pas mal de retours de « Oh, mais quand même, t'abuses, il a pas plu tout le temps à Bordeaux. » Voilà, non, mais désolé, c'est ça. Mais presque si quand même, parce que quand je suis arrivée pendant deux mois, j'ai pas vu le soleil. Mais ça se passe bien et c'est forcément un climat qui est différent, mais en même temps on trouve d'autres choses à faire quand il pleut et puis du coup je profite vachement bien quand je suis en compète à Miramas et que je suis sous le soleil. Chouette, j'en profite plus qu'avant, je pense.
Je te dis ça parce que j'ai connu la même expérience que toi. Moi je suis niçois et j'ai été faire mes études à Bordeaux et j'ai connu la même expérience que toi. On arrive là-bas, il pleut tout le temps, ça nous change. Merci Margot,
merci en tout cas,
et continue à nous régaler, à progresser petit à petit vers ces Jeux Olympiques, avec donc le All-Star Perche jeudi, puis les championnats d'Europe et enfin les Jeux Olympiques. Merci Margot Chevrier, à très bientôt.
Merci à vous, merci, au revoir.
Margot Chevrier, championne de France du saut à la perche. Ok, allez, 13h43, c'est l'heure du journal olympique, donc avec l'ami Valadon. On va donc commencer par les records dont tu nous parlais il y a quelques instants, record du marathon notamment battu, c'était tout à l'heure à Séville, Arnaud.
Par Morad Hamdouni pour le record de France masculin, il a bouclé les 42 km 195 en 2h, 3 minutes 47 secondes, effaçant sa propre marque de 90 secondes. Il termine deuxième de la course et les trois meilleurs Français ayant réussi les minima se qualifie pour les Jeux. Hamdouni intègre ce top 3 et valide quasiment son ticket pour Paris 2024. Et l'autre record, c'est chez les femmes. Juste après, Méline Rollin a aussi battu le record de France du marathon avec un temps de 2h24 minutes 12 secondes. C'est 10 secondes de mieux que Christelle Denet qui détenait le record depuis 2010. Des performances qui peuvent s'expliquer par le caractère roulant de l'épreuve sévillane, une des plus plates homologuées. Et côté athlétisme, il y avait, et on en a parlé avec Marc par Gaucherie. Les championnats de France en salle à Miramas dans les Bouches-du-Rhône. Meilleur chrono de la saison hier pour la hurdleuse Sirena Samba Maleya sur 60 mètres haies. En 7 secondes 87, elle remporte sa course. Chez les hommes, Jeff Herius, sprinter français de 20 ans, s'est imposé en 6 secondes 58 sur 60 mètres et sera au Mondiaux en salle de Glasgow. Et pour Kevin Mayer, on était un petit peu inquiet puisqu'il n'a pas terminé son 60 mètres hier à cause d'une pointe à l'ischio. Le décathlonien s'est quand même essayé au poids mais n'a pas réussi de marque. Et aujourd'hui, il vient de remporter le concours à la perche de cet heptathlon, 5m15. Voilà, on est rassuré, sachant que c'est une épreuve voilà, pour se remettre en jambes, parce qu'on vise évidemment les minima qui n'ont toujours pas été atteints pour Kevin Mayer. Et ce sera à San Diego, vraiment l'étape, le 21 et 22 mars prochain aux États-Unis.
D'accord, donc il n'était pas prêt pour le 60 mètres, mais pour la perche, il est prêt. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est peut-être pas les mêmes muscles qui sont sollicités. Comme les Formule 1, les pistards, les cyclistes qui font de la piste ont le droit à leurs essais en soufflerie, Arnaud.
Oui, à 159 jours du lancement des Jeux Olympiques avec la cérémonie d'ouverture, la Fédération française de cyclisme se prépare minutieusement avec un département recherche et performance. Et on vise à aider les pistards, discipline dans laquelle la France n'a ramené que 2 médailles de bronze en 2021. Il y a donc plusieurs projets, et notamment des collaborations avec des tests en soufflerie en compagnie de l'Institut Aérotechnique.
Oh, Arnaud, t'as failli lancer ton enregistrement.
J'ai failli, mais c'est pas grave.
Tout recommencer à zéro là.
Collaboration entre la Fédération française de cyclisme qui veut aider ses pistards et l'Institut Aérotechnique de Saint-Cyr-l'École pour faire des essais en soufflerie. Le but, gagner le moindre millième de seconde tant important en testant à la fois le matériel, les positions sur le vélo, les attitudes. Eh bien, ces tests ont été vus sous le regard et le micro de Valentin Jamin.
Dans la soufflerie de l'Institut Aérotechnique, un vélo de piste est posé. Et dessus, un mannequin qui représente la silhouette du pistard multi-champion du monde, Benjamin Thomas. Mécaniquement, les pédales se mettent à tourner comme si quelqu'un roulait dessus. On envoie un vent de face pour simuler la vitesse sous la supervision de Claude-Oald Robert, directeur de l'Institut Aérotechnique.
Sous le plancher, en fait, on a un appareil de mesure qu'on appelle balance, qui sont des capteurs qui mesurent la force physique exercée par le vent sur le mannequin. On mesure sa résistance à avancer à une certaine vitesse. Si c'est le coureur lui-même qui vient, il va essayer d'optimiser sa position. Donc à chaque essai, il va tenir une position pendant quelques secondes. On mesure la force a été généré par le vent, il essaye une deuxième position et à la fin de la journée on retient la position la plus efficace.
Les coureurs eux-mêmes viennent jusqu'à 4 fois par an ici, ils restent entre 1h30 et 2h par séance pour vraiment tout optimiser, explique Emmanuel Brunet, le manager recherche et performance à la fédération.
Quand on vient en soufflerie, on regarde une chose, c'est l'aérodynamique, c'est chercher à réduire cette force-là. En améliorant leur position, ils arrivent à gagner 2, 3, 4, 5% de puissance. Et après, on va poursuivre ça en développant en fait le matériel autour du cycliste, que ce soit son habillement, ses casques, voire l'ensemble de son vélo. Tous ces essais, en fait, ils nous apportent à pouvoir rouler plus vite, voire même plus longtemps.
La position et le matériel, donc, la tenue que porteront les Bleus est imaginée, testée depuis 3 ans. Les casques aussi sont attentivement choisis.
Le casque, il est propre à chacun. Il n'y a pas un casque plus performant qu'un autre. C'est un ensemble parce que c'est la forme de l'ensemble du cycliste. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir une banque de casques la plus complète. Et quand l'athlète vient ici, il compare en fait tous les casques et on va identifier le casque le plus performant pour lui.
10 personnes sont impliquées dans la cellule recherche et performance, dont 3 à plein temps. L'ancien coureur sur route, Jérémy Roy, collabore avec la Fédération française de cyclisme sur ce projet. Il a déjà été concerné par des tests lui aussi dans sa carrière.
Quand on est coureur, c'est vrai que la sensation c'est un peu particulier. Quand on est nous-mêmes dans la soufflerie, ça souffle fort. C'est des sensations un peu différentes que sur le terrain, mais voilà, c'est super intéressant pour tout optimiser. Enfin, on peut tester beaucoup de choses de façon reproductive. Donc si on veut optimiser un petit bout de position, une partie du textile, une position de couture, par exemple, ça paraît insignifiant, mais en fait ça a un impact énorme sur la résistance à l'air et sur l'aérodynamisme.
Le matériel évolue en permanence, donc les recherches ne s'arrêtent jamais. L'équipe de France estime avoir gagné bien plus d'un dixième au tour, soit l'équivalent d'un vélo d'écart en piste, des différences en or en vue des JO de Paris.
Voilà, reportage de Valentin Jamin. Rapidement, de résultats.
En judo, puisqu'il y a le grand slam de Bakou deux semaines après celui de Paris. Défaite en finale hier pour Marie-Ève Gaillet en moins de 70 kilos face à la numéro 1 au ranking olympique. Tout à l'heure, on aura une finale pour Roman Dico face à l'italienne Tavano. Enfin, Alexis Mathieu qui cherche sa qualification en moins de 90 kilos chez les hommes. Et en lice pour le bronze, vous savez, il y a un seul judoka par catégorie de sélectionnés. Et enfin, en tennis de table, ce sont les mondiaux par équipe à Busan, en Corée du Sud. Les bleus et les garçons et les filles mènent à la fois 2-0 dans leur match. Ils sont invaincus depuis le début de la compétition. Les Bleus, avec notamment un des frères Lebrun, est opposé à l'Autriche depuis midi. Ils mènent deux rencontres à zéro. Et chez les Dames, c'est là aussi un avantage de 2-0 face à l'Égypte. On rappelle que si une équipe est en quart de finale, eh bien le ticket est validé pour les Jeux Olympiques de Paris.
Ah, bah alors, allez nos Bleus, allez nos pongistes français. Merci Arnaud.